à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous fais découvrir les mythes et les légendes qui entourent un animal qui cristallise toutes les angoisses, le serpent. J'aurai ensuite la chance de recevoir Raphaël Janson, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre de recherche sur la cognition animale, le CRCA, membre du CBI, le Centre de biologie intégrative, rattaché au CNRS et à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il nous parle aujourd'hui de ses travaux qui visent à percer l'émergence de la société chez les araignées. Bonjour Raphaël et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci pour votre invitation.
J'espère que vous êtes prêts, c'est parti.
Pourquoi est-ce que le sol bouge comme ça?
Donne-moi la torche. Fallait que ce soit des serpents.
Ils voyagent dans les contrées les plus reculées, affrontent des nazis, des fanatiques, des militaires soviétiques, ses étudiants à la fac. Et pourtant, il l'avoue lui-même dans cet extrait des aventuriers de l'Arche perdue, s'il y a bien une chose qui répugne Indiana Jones, c'est bien les serpents. Et malheureusement pour nos amis à écailles, il est loin d'être le seul à exprimer une telle répulsion à leur égard. Quand on farfouille dans nos contes et légendes des quatre coins du globe, une seule certitude apparaît. Difficile de faire figure plus ambiguë que celle du serpent. Dans de nombreuses religions anciennes, les serpents jouent un rôle important dans la création du monde. L'un des mythes les plus connus provient de l'Égypte ancienne et rapporte le combat quotidien titanesque de la lumière sur l'ombre, de l'ordre face au chaos. Ré, dieu solaire, voyage le jour à bord d'une barque sacrée dans le ciel. Mais la nuit, il s'aventure avec son équipage dans le monde souterrain, plongé dans l'obscurité. Là règne Apophis, le serpent géant qui, chaque nuit, affronte Ré et tente d'empêcher la barque d'atteindre le petit matin. Mais Ré a tout un équipage avec lui. Seth, le dieu du tonnerre et de la violence, à tête de chacal, qui le menace de son harpon. Isis, la magicienne illusionniste, qui trouble ses sens. Et Bastet, la déesse à tête de chat, qui le découpe à l'aide d'une lame. Les ténèbres écailleuses ne passeront pas. Dans l'hindouisme, trois nagas, Shesha, Vasuki et Tashaka, sont trois serpents cosmiques, qui façonnent le monde et qui sont étroitement liés aux trois dieux créateurs. Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, et Shiva, le destructeur. En Australie, et bien qu'il change de nom, selon les tribus aborigènes, il est fait mention un peu partout sur le continent du serpent arc-en-ciel, un esprit puissant qui évoque l'origine de toute chose et est profondément attaché aux ancêtres. Il est associé à l'eau, essentiel à la vie et symbole de fertilité. On lui doit les pluies salvatrices après les sécheresses, mais aussi le tonnerre et les orages, bien plus redoutables. On retrouve cette idée du serpent fondateur en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement chez les peuples Fon, Adja et Goun, que l'on retrouve majoritairement au centre et au sud du Bénin. Comme le précise l'équipe d'ASC Toudonou dans son article publié en 2004 dans le bulletin de la recherche agronomique du Bénin, les serpents sont sujets à des tabous, ce qui fait que les animaux sont intégralement protégés par les populations locales. Dans certaines histoires, ce sont les ondulations du corps du serpent primal qui vont façonner les fleuves et les collines. Autant dire qu'il est vénéré et respecté. Cependant, la tradition judéo-chrétienne issue des pays occidentaux s'insinue jusqu'au Bénin et corrompt cette idée. Une nouvelle fois, le christianisme joue les troubles faits et prête des intentions peu recommandables à de nombreux animaux, dont notre reptile. Dans la Bible, le rusé serpent Nahash est celui qui va troubler Ève, la première femme, et lui fera mort dans le fruit de la connaissance, outrepassant ainsi l'interdiction divine d'y toucher. En cédant à la tentation, Ève puis Adam découvrent le bien, le mal et s'horrifient de leur nudité. Dieu, en représailles, les chasse du paradis et ils perdent leur immortalité. Mais ils y gagnent la connaissance, ce qui les place presque en égaux de Dieu. Ève, parce qu'elle reste une femme indisciplinée et que ça, tout de même, on n'aime pas trop, y gagne son second lot. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse, chapitre 3, verset 16. Eh ben super, merci. Pas étonnant que l'on garde une dent contre le serpent. Associé au diable, à la tentation charnelle, la réputation du serpent est faite. Il est rusé, cruel, dangereux et carrément effrayant. L'exemple le plus glaçant, issu de la mythologie gréco-romaine, reste celui de Méduse, comptée, entre autres, dans les Métamorphoses d'Ovide. L'infortunée Gorgone, à la sublime chevelure, sera d'abord violée par le dieu de la mer Poséidon dans le temple de la déesse de la guerre Athéna. Elle sera ensuite transformée en monstre, dont le regard change en pierre et sa tête coiffée de reptiles venimeux par Athéna elle-même, qui devait sans doute trouver qu'elle n'avait pas eu son compte. Il y a des jours comme ça. Cependant, il faut bien noter que c'est encore une fois le christianisme qui fait office d'exception et que de nombreuses représentations du serpent restent plutôt positives. Asclépios, sous sa version latine Esculapre, dieu de la médecine, guérisseur et bienfaiteur de l'humanité, est toujours représenté avec un serpent unique, enlacé autour de son bâton. Et sa fille, Hygie, à l'origine du mot hygiène, tend une coupe ou un verre à un serpent pour qu'il vienne y boire. C'est une image que l'on retrouve encore aujourd'hui sur nos pharmacies. En Égypte ancienne, même si Apophis fait trembler, la déesse Wadjet, à la tête de cobra, elle, est un symbole de protection. Sous la forme de l'Ureus, un serpent dressé, elle orne fièrement le front des dieux et de Pharaon, prête à cracher du feu pour le défendre. Elle représente la basse Égypte, aux côtés de Nekbet, à tête de vautour, qui représente, elle, la haute Égypte. Et chez les Indiens Hopi, qui vivent dans le désert d'Arizona, les serpents sont associés au cycle de la vie, de l'eau et de la fertilité, comme en Australie. Ils pratiquent chaque année 9 jours de cérémonie, dont la dernière journée s'achève par la danse du serpent, qui dure habituellement une heure et est maintenant rendue publique. Au cours de cette danse, les prêtres tiennent des serpents autour de leur cou, dans leurs mains, ou parfois même dans leur bouche. À la fin de la danse, les serpents sont relâchés pour demander de la pluie, en prévision du printemps et du renouveau de la nature. Enfin, le serpent, grâce à sa capacité extraordinaire à changer de peau, est bien souvent un symbole d'éternité, de renaissance. L'un des symboles les plus connus est celui de l'ouroboros, qui représente un serpent qui se mord la queue, formant ainsi une boucle à l'infini. Une image qui a perduré jusqu'à nous via certaines représentations propres à la pop culture, telles que le médaillon que le jeune Atreyu reçoit de l'impératrice dans le roman « L'histoire sans fin » de Michael Ende, porté à l'écran par Wolfgang Petersen en 1984. Ce médaillon, l'orine, représente deux serpents entrelacés, l'un doré, l'autre argenté, entremêlés entre le réel et l'imaginaire. Et même si le serpent de compagnie de Lord Voldemort, Nagini, ou le basilic terré dans la chambre des secrets de Poudlard ont fait trembler des générations de lecteurs, d'autres serpents de fiction bien intentionnés ont, eux, souffert de préjugés. Et ce sont les adaptations cinématographiques qui ont entaché leur réputation. Le serpent K, par exemple, est un allié de Balou et de Bagheera et un mentor pour Mowgli dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling. C'est un python gigantesque, réfléchi bien que nonchalant, qui utilise sa sagesse de plus de 100 ans pour tirer ses amis d'un mauvais pas. Ce sont les studios Disney qui choisissent d'en faire un méchant, aux côtés de Shere Khan, le tigre, dans leur adaptation animée sortie sur les écrans en 1967, persuadés que le public ne pourrait pas trouver un serpent sympathique. Heureusement, les mentalités changent, et des serpents, même si c'est encore rare, peuvent incarner de vrais héros. C'est le cas dans le film d'animation Kung Fu Panda du studio DreamWorks, sorti sur les écrans en 2008, où Maître Vipère fait partie des 5 cyclones, les maîtres de Kung Fu qui font rêver Po, le panda héros de l'histoire, aux côtés de tigresse, grue, mante et singe. Dépourvue de crochets venimeux, elle utilise la strangulation, mais ne manque pas de douceur et d'empathie pour la nouvelle recrue, plutôt brimée par ses autres collègues. Même si les représentations anciennes et actuelles des serpents sont aussi diverses que variées, le traitement qui leur est réservé dans la réalité est plutôt du genre violent. Pourtant, les morsures qui contribuent à alimenter la haine du grand public restent très rares. La dernière morsure mortelle de vipère en France remonte à 2003. Malgré la pédagogie et la prévention, les serpents souffrent de la dégradation de leur habitat et du changement climatique, et les effectifs des 13 espèces de serpents qui vivent en France métropolitaine continuent de chuter. L'importance des serpents et leur rôle écologique n'est pourtant plus à prouver. Et nous sommes encore si loin de bien connaître leur comportement. Quid de leur vie sociale ou de leur intelligence ? Un article publié en avril 2020 dans le journal Behavioral Ecology and Sociology par Morgan Skinner et Noam Miller révèle que les jeunes serpents rayés, quand ils sont placés en groupe avec d'autres congénères, cherchent activement les contacts sociaux. Quand on sépare les individus pour nettoyer leur enclos, les mêmes groupes se reforment et ces interactions sont influencées par leur personnalité et leur âge. D'anciennes recherches ont aussi démontré que certains serpents, comme le mocassin d'eau, forment des couples dans la durée ou encore que certains crotalinés ou pitons africains prennent soin de leurs petits. Les serpents ne sont donc pas des brutes sanguinaires solitaires. Heureusement, et petit à petit, les choses avancent dans le bon sens. Grâce à la mobilisation de longue haleine de la Société herpétologique de France, une actualisation de l'arrêté du 19 novembre 2007 a permis d'annuler la destruction encore tolérée de la vipère aspic et de la vipère péliade, deux espèces en déclin. Un nouvel arrêté ministériel a donc été publié le 11 février 2021 au journal officiel et assure donc une protection totale des 13 espèces françaises. Il serait donc temps d'inverser les rôles, de se défaire de tout préjugé et de chanter au serpent cette ritournelle bien mal interprétée jusqu'alors. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Et nous revoici avec notre invité, Raphaël Janson, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre de recherche sur la cognition animale, le CRCA, membre du CBI, le Centre de biologie intégrative rattaché au CNRS et à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il vient nous parler aujourd'hui de société chez les araignées. Alors, pour commencer, je voulais qu'on remette quelques petites généralités sur nos amis arachnides. On les confond souvent avec les insectes. Alors, comment les distingue-t-on ?
Alors, il y a plusieurs caractéristiques qui permettent de distinguer les araignées des insectes, dont une des plus frappantes est le fait que les araignées ont 4 paires de pattes, donc 8 pattes, alors que les insectes n'ont que 3 paires de pattes. Les araignées sont dépourvues d'antennes et sont dépourvues d'ailes également. Donc ce sont les caractéristiques principales qui permettent de les distinguer.
Et au final, est-ce que leur mode de vie, parce que c'est vrai qu'un insecte c'est très très large, alors que les arachnides ont quand même des caractéristiques plus faciles à cerner finalement.
Alors les araignées, pour autant, ont colonisé tous les milieux, au même titre que les insectes. On va les trouver dans les hémisphères nord-sud, même dans certaines grottes où certaines espèces d'araignées ont perdu complètement l'usage de leurs yeux. Donc on les trouve dans tous les milieux, elles ont colonisé tous les biotopes et donc sont particulièrement bien adaptées à nos environnements.
Donc on les trouve en plus partout. Un autre des reproches qu'on leur fait souvent, parce qu'elles sont quand même rarement bien vues, c'est qu'on les soupçonne de nous piquer. Est-ce que c'est vrai ?
Alors déjà, les araignées ne piquent pas, elles mordent. Les insectes qui vont piquer sont par exemple les insectes suceurs comme les moustiques, mais également tous les insectes qui sont équipés de dards, frelons, abeilles ou guêpes. Alors si les araignées ont un appareil qui leur permet de se défendre, ce sont des chélicères, les crochets qui leur permettent de mordre, d'injecter un venin, mais en aucun cas elles ne piquent. Donc on entend souvent par abus de langage, je me suis fait piquer par une araignée. Non, au mieux, on sait, ou au pire, on s'est fait mordre par une araignée, pas piquer.
Pas piquer. Et est-ce qu'elles peuvent s'en prendre à l'humain ou c'est vraiment rarissime ?
Alors, c'est extrêmement rare, en tout cas sous nos latitudes, en France métropolitaine, de se faire mordre par une araignée. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la musculature des araignées ne leur permettrait pas de percer la peau. Donc la peau humaine est relativement épaisse et une grande partie des araignées qui sont de taille assez restreinte. Et donc la musculature n'est pas assez puissante. La deuxième raison est que le venin des araignées, qui sont donc des prédatrices, qui utilisent un venin pour consommer leur proie, n'est pas nécessairement actif chez l'homme. Et une raison plus importante encore est que l'homme n'est pas une proie pour l'araignée. Donc les seules morsures qu'on peut avoir avec des araignées seraient des morsures défensives, notamment si on s'amuse à vouloir les manipuler, auquel cas on s'expose au risque d'une morsure. Et donc en France métropolitaine, les morsures sont infinitésimement présentes. Et donc il y a très peu de justification à se méfier des araignées. Et souvent on entend les gens qui disent « le matin, je me suis fait piquer par une araignée ». Non, si on a une piquure, ça peut être une piquure par une punaise de lit ou un autre insecte. Mais l'araignée n'est généralement pas incriminée dans ce type de morsure.
Puis, vu qu'on ne les intéresse pas pour un repas, il n'y a vraiment aucune raison.
Exactement.
Alors, l'une des autres particularités des araignées, ce sont leurs toiles, leurs soies. Est-ce que toutes les araignées fabriquent des toiles ?
Alors non, toutes les araignées ne fabriquent pas des toiles pour chasser, mais toutes les espèces d'araignées, à un moment de leur cycle vital, font usage de la soie.
D'accord.
Donc, il faut distinguer les araignées qui sont des araignées errantes, par exemple, qui vont chasser des araignées en étant à l'affût, des araignées qui vont utiliser des pièges soyeux, donc la toile, pour attraper leur proie. Mais toutes les espèces d'araignées, à un moment, vont utiliser la soie comme les femelles qui vont pondre un cocon. Ce cocon est composé de soie dans lesquelles vont être présents les œufs puis les jeunes individus. Et le mâle également va tisser une toile qu'on appelle une toile spermatique sur laquelle il va déposer une petite goutte de sperme dont il va ensuite remplir les pédipalpes. Donc les pédipalpes sont des pattes, des sortes de pattes modifiées qui sont à l'avant de la tête. Ils vont remplir ces bulbes copulateurs à l'extrémité des pédipalpes avec le sperme pour ensuite venir pénétrer la femelle et se reproduire. Donc mâle et femelle de toutes les espèces, au cours de leur cycle vital, font usage de la soie, mais pour autant tous n'utilisent pas de toile.
Et puis du coup, pour les cocons, c'est vraiment une fonction protectrice au final.
C'est une fonction protectrice et quand on parle de la soie, même chez les femelles qui vont tisser des toiles pour chasser, il y a différents types de soie qui sont utilisés et produits par la femelle en fonction de l'usage de la soie. Et effectivement, la soie autour du cocon a un rôle protecteur qui va prévenir contre la dessiccation, les pertes en eau, le parasitisme et tout ce qui pourrait avoir des conditions préjudiciables sur le développement des jeunes au sein du cocon.
Oui, donc plein de fonctions très différentes. Alors, les araignées sont décrites comme des chasseresses impitoyables, voire cannibales. C'est ce qu'on leur reproche souvent. On reproche à la mère de manger les petits de manger leur mère, voire même la femelle dévorer ses prétendants lors de l'accouplement. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a environ 50 000 espèces d'araignées dans le monde. Donc environ 1500 en France métropolitaine. Donc forcément, en fonction des espèces qu'on va considérer, on va avoir des traits qui vont être légèrement différents. Alors, certaines espèces vont présenter du cannibalisme, où les femelles vont consommer les mâles, mais ce n'est pas la règle. De la même façon, chez certaines espèces, la femelle peut être cannibalisée par ses jeunes à un moment du stade du développement des jeunes, mais ce n'est pas le cas chez toutes les espèces. Par ailleurs, on a d'autres espèces chez lesquelles les femelles vont nourrir leurs jeunes. On va avoir des comportements de régurgitation où la femelle, après avoir chassé une proie, va régurgiter des aliments aux juvéniles pour leur permettre de se développer. Et dans certains autres cas, on a certaines espèces chez lesquelles le mâle offre un cadeau nuptial à la femelle. Donc va amener sur la toile une proie de telle sorte que la femelle va pouvoir consommer la proie le temps que le mâle s'accouple.
Il l'occupe.
Il l'occupe en ce temps-là. Et donc en fait, cette réputation de cannibalisme d'être sanguinaire est complètement infondée. Et toutes les espèces d'araignées, au cours de leur stade de développement, vont présenter une phase de vie sociale et tolérante sur laquelle on reviendra peut-être.
Tout à fait. Et justement, donc on le disait, on pense les araignées majoritairement solitaires. Or vous, vous intéressez à leur socialité. Alors, je voulais voir avec vous... En quoi est-ce que ces arachnides, les arachnides, représentent un modèle biologique pertinent pour étudier la socialité, puisqu'on pense qu'elles sont si souvent solitaires ?
Alors, effectivement, il y a le mythe de l'araignée solitaire est erroné. Donc, parmi les 50 000 espèces d'araignées, l'énorme majorité sont solitaires à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'après la maturité sexuelle, les mâles et les femelles vont vivre indépendamment et isolément, et les seules interactions seront restreintes à l'accouplement. Mais chez toutes les espèces d'araignées, d'autant qu'on sache, les jeunes, au cours de leur développement, vont présenter une phase grégaire temporaire. Donc, c'est-à-dire que ces jeunes vont être tolérants, vont présenter ce que l'on appelle de l'interattraction, comme les serpents dont vous parliez tout à l'heure d'une étude qui a été publiée récemment, où vraiment, on peut montrer au laboratoire que les jeunes sont attirés par les autres individus du cocon, et ce qui peut suffire à définir une espèce comme étant sociale. Donc, la socialité, ce n'est pas un critère qui doit durer tout au long de la vie de l'individu, mais qui peut être présent de façon tout à fait transitoire, comme c'est le cas chez ces araignées.
Là, on parle de tolérance entre les jeunes d'un même cocon. Est-ce qu'il peut y avoir des tolérances de jeunes qui ne sont pas du même cocon ?
Oui.
Ça existe également ?
Donc nous, sur l'espèce sur laquelle on travaille au laboratoire, qui est Agelena labyrinthica, une espèce qu'on trouve aux alentours de Toulouse, les juvéniles sont tout à fait tolérants entre des individus qui sont issus du même cocon, dans leurs petits frères ou leurs petites sœurs, ou d'individus qui sont issus de cocons, même très éloignés géographiquement. Donc il n'y a pas de discrimination entre les individus selon leur parenté génétique. Il y a une tolérance qui est systématique au premier stade du développement.
Avec des jeunes du même âge, du coup.
Avec les jeunes du même âge, voilà.
Qui jouent. On vous laisse claquer des doigts, tournoyer, swinguer comme l'araignée au bout de son fil, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Respect unto you. C'était If I Don't Have You de Mia Doy Todd, extrait de l'album Music Life. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité, le chercheur Raphaël Janson, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du Centre de recherche sur la cognition animale, le CRCA, membre du CBI, le Centre de biologie intégrative, rattaché au CNRS et à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il nous parle aujourd'hui de ses travaux qui visent à percer l'émergence de la socialité chez les araignées. Alors, on l'a vu un petit peu avant la pause. À Toulouse, vous travaillez en laboratoire avec une espèce d'araignée que vous avez évoquée dans la première partie. Quelle est cette espèce ?
Donc, c'est l'espèce Agelena labyrinthica, qui est une espèce très commune, qui fait des toiles qu'on appelle irrégulières. On a une grande nappe de chasse horizontale qui est connectée à un tube en forme d'entonnoir, dans laquelle la femelle va se nicher et pondre son cocon.
Et c'est une espèce qu'on trouve en France métropolitaine, dans la nature ?
On la trouve partout. Elle est très répandue.
Et c'est une petite araignée ? À quoi elle ressemble ?
C'est une araignée qui, à l'âge adulte, va faire 2 cm.
D'accord, donc un format moyen.
Ça commence à être dans les grandes araignées.
Dans les grandes araignées. Oui. Et cette espèce, donc, elle chasse à l'affût
chasse sur une toile. Elle utilise une toile, oui.
Ok. Et au niveau de sa socialité, est-ce que c'est une araignée qui vit seule, comme on l'a un petit peu abordé ?
Oui. Alors, la raison pour laquelle on a choisi cette araignée, je la détaillerai juste dans un instant, mais donc la femelle va pondre un cocon, généralement au mois de août-septembre. Ensuite, elle va rester à proximité du cocon jusqu'à ce qu'elle meure au cours de l'hiver. Et au sein du cocon, les jeunes vont rester vivants, prêts à émerger, mais ils n'écloront du cocon qu'au printemps suivant. Donc, ils vont rester en diapause dans ce cocon pendant les mois de l'hiver avant d'émerger. Et donc, dans ce cocon, les individus présentent une tolérance sociale qui est importante. Et à l'issue de cette période dans le cocon, quand les jeunes vont émerger, ils vont rester sur la toile pendant quelques jours avant de se disperser. Et au cours de cette phase grégaire, les jeunes vont montrer des comportements d'interattraction et de tolérance. Et donc, nous, les recherches qui nous animent sont de caractériser les mécanismes qui sont à l'origine de l'initiation de la dispersion de cette espèce.
Parce que dans la partie, donc, quand vous dites dans le cocon en diapause, ça veut dire que les petits éclosent, ce sont des petites araignées, mais qu'elles restent comme ça tout le long de l'hiver, ensemble, vivantes dans le cocon.
Exactement. Donc la femelle pond des œufs. Les œufs vont se développer, on va avoir une sorte de nymphe qui va émerger de ces œufs. Puis, on va avoir une mue au sein du cocon pour donner des jeunes araignées.
Okay.
Et ces jeunes araignées qui sont tout à fait capables de se déplacer, de chasser, de tisser des petits fils de soie, restent dans le cocon pendant 2, 3, 4 mois avant d'en sortir. Donc, il faut là qu'il y ait des mécanismes de tolérance qui soient très importants, très forts, très robustes, pour empêcher le développement de comportements agressifs. Cette agressivité dont on parle en permanence, elle n'existe pas au stade vraiment premier du développement.
Parce que ça veut dire que ces jeunes araignées, quand elles sont dans le cocon, il faut bien qu'elles se nourrissent.
Alors, elles vont utiliser leurs réserves énergétiques. Donc, elles vont avoir des réserves qu'elles vont pouvoir consommer sans pour autant cannibaliser leurs petits frères ou leurs petites sœurs.
Parce que c'est ce que je me disais, si la seule source de nourriture sont d'autres araignées, pourrait tenter de penser au cannibalisme.
On a montré au laboratoire que des araignées, quand elles émergent du cocon, sont extrêmement réticentes à cannibaliser leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et en fait, les recherches que nous faisons sont d'essayer d'examiner l'influence des interactions sociales sur la prévention, le fait d'empêcher le développement du cannibalisme. Et dès lors que des araignées maintiennent un contact social proche, intense, à ce moment-là, le cannibalisme ne se développe pas. Donc, c'est ce qu'on essaye d'élucider.
Alors, donc justement, ces expériences, donc vous, votre but, c'est vraiment de voir, au final, qu'est-ce qui va motiver la dispersion ou, au contraire, le fait de rester en groupe à ce stade juvénile.
Alors, la question qui nous anime est d'essayer de comprendre la socialité chez les araignées. Je parlais tout à l'heure d'environ 50 000 espèces d'araignées qui sont toutes solitaires, mais ont été décrites 20 espèces au niveau de la planète qui vivent en société tout au long de leur vie. C'est-à-dire, chez ces espèces d'araignées, les jeunes vont cohabiter avec les adultes, mâles et femelles. On peut avoir des toiles qui peuvent être gigantesques. En Guyane française, par exemple, il y a une espèce qui s'appelle Anelosimus eximus, sur laquelle on travaille un peu, qui peut faire des toiles qui vont faire 20-30 mètres de long sur 2 ou 3 mètres de hauteur et qui vont contenir des milliers d'araignées. Donc, sans aller jusqu'à ces extrémités-là, il y a d'autres espèces d'araignées sociales, dont les 20 dont on parlait à l'instant, notamment Agelena consociata, qui est une espèce d'araignée sociale qui vit au Gabon ou au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle on a, nous, décidé de travailler sur Agelena labyrinthica. Ces deux espèces étant proches, ça va nous permettre de développer des approches comparatives pour identifier les mécanismes, possiblement, qui ont conduit à l'apparition de la société permanente chez les araignées.
Donc comme ça, vous avez en labo une espèce solitaire. Voilà. L'idée, c'est de comparer avec une espèce proche sociale.
Exactement.
Et d'essayer de comparer tout ça.
Exactement.
Et en laboratoire, comment vous y prenez-vous ? Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, alors vous avez des araignées, j'imagine, dans une animalerie. Comment est-ce que vous mettez au point les expériences ? À quoi ça ressemble concrètement ? une manip pour essayer de tester la socialité chez les jeunes araignées en labo.
Alors ça, c'est simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer des cocons sur le terrain, dans la nature, au mois de septembre. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est les cocons contiennent déjà les juvéniles qui ont éclos. On ramène les cocons, on les met dans une chambre froide au laboratoire pour simuler la diapause hivernale. Et à partir du mois de janvier à fin mars environ, on récupère les cocons dans l'enceinte réfrigérée et on ouvre manuellement les cocons. Donc là, okay. On a plein de petites araignées qui vont sortir. On a en moyenne 100 araignées qui sortent de chaque cocon. Et selon les tests expérimentaux qu'on fait, on va placer simplement ces araignées, soit seules, soit en groupe, dans des petites boîtes en plastique. Elles vont, selon les traitements, être nourries ou non nourries. Et après des périodes soit d'isolement, soit de maintien en groupe de durée variable, on va les placer ensemble et on va regarder si oui ou non elles développent des comportements agressifs. Donc les moyens techniques dont on dispose pour ces expériences sont très sommaires, très rudimentaires, mais sont largement suffisants pour tester toutes nos hypothèses. Ça nécessite un bon sens de l'observation, du travail, parce quand on travaille sur les araignées, on a des échantillons qui sont assez conséquents. Oui. Et j'ai la chance d'avoir encadré des travaux de thèse de doctorantes ou de doctorants qui sont très motivés, très sérieux. Et donc, c'est à eux que revient tout le crédit de ces travaux sur les araignées. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire, outre ces approches purement comportementales qui sont vraiment centrales dans nos recherches, on essaye de développer des approches complémentaires pour essayer d'identifier les changements physiologiques qui sont associés aux changements dans les comportements sociaux que vont manifester les araignées au cours de leur développement. Et on fait ça en collaboration avec d'autres laboratoires du site toulousain.
Alors, par exemple, vous parlez de changements physiologiques. Ça veut dire que c'est un changement qui va se voir physiquement chez l'araignée quand elle passe de solitaire à sociale ou
non.
Pas du tout?
Non, typiquement, chez les jeunes araignées sur lesquelles on travaille, ce qu'avait montré Violette Chiara, qui était une étudiante qui a soutenu sa thèse en 2019, était que si on prenait deux araignées qui étaient maintenues en groupe pendant 20 jours, à l'issue de ces 20 jours, les araignées n'étaient jamais agressives envers d'araignées de stade équivalent. Par contre, si ces mêmes araignées étaient placées en isolement pendant 20 jours, au bout de 20 jours, elles devenaient extrêmement agressives. Donc la seule durée d'isolement de 20 jours conduisait les araignées à devenir soit agressives ou à rester tolérantes si elles étaient en présence de leurs congénères, sans pour autant qu'il y ait une quelconque modification au niveau morphologique. Mais forcément, si on a un changement au niveau comportemental, on doit avoir un changement physiologique. Et justement, on veut essayer d'identifier les voies physiologiques qui sont associées à ce changement comportemental.
Et ce changement physiologique, vous avez déterminé où ça se passait? Est-ce que c'est sur la peau de l'araignée?
On n'en a aucune idée,
encore,
en fait. On a des pistes de réflexion. Alors, comme les araignées ont ces comportements sociaux, elles ont des moyens de communication. Elles vont notamment utiliser donc les propriétés vibratoires de la soie, mais également des composés chimiques qu'elles ont sur la carapace, qu'on appelle des hydrocarbures cuticulaires, dont les modifications vont accompagner le développement de l'araignée. Et ça peut être également ce genre de modification qui serait à l'origine du changement de comportement en fonction de l'isolement ou pas. Mais là, c'est typiquement le sujet de thèse d'une autre étudiante, Émilie Mauduit, qui a commencé sa thèse au mois d'octobre 2020 et qui a pour objectif de répondre à cette question, d'identifier les mécanismes qui sont à l'origine du changement de comportement suite à l'isolement social.
Mais c'est assez passionnant parce que, bon, vous savez ça mieux que moi parce que vous travaillez aussi sur les fourmis, mais les fourmis communiquent par l'intermédiaire de ces molécules chimiques sur leur cuticule. Donc s'il y avait quelque chose d'équivalent chez les araignées... Enfin, à ma connaissance, moi, je n'ai jamais rien lu là-dessus. Donc
alors,
ça serait...
chez les araignées, il y a quelques travaux qui avaient été conduits par Marie Traballon, qui travaille à Rennes et qui était avant à Nancy, qui a montré notamment que chez les femelles, en fonction de leur développement ovarien, de leur stade de développement ovarien, elles vont avoir une réactivité différente à certains composés cuticulaires. Donc ces composés cuticulaires, au même titre que chez les fourmis, les abeilles, les guêpes ou les termites, sont impliqués dans la régulation des interactions sociales.
Donc ça joue vraiment un rôle. En tout cas, c'est vraiment une question passionnante à creuser. Alors donc, vous l'avez évoqué, vous allez également étudier les araignées sur le terrain, en Guyane, avec une espèce très sociale, qui est donc Anelosimus eximius. Mm-hmm. Alors, vous l'avez dit, elles font des très grandes toiles, mais à quoi elles ressemblent, ces araignées sociales?
Alors, ce sont des toutes petites araignées qu'avait déjà décrit Darwin au 19e siècle au cours de ses voyages autour du monde. Et il s'étonnait, Darwin, de voir des araignées qui étaient sociales alors qu'elles avaient cette réputation d'être si sanguinaires. Donc on revient à ce dont on parlait au début. Donc c'était une des premières descriptions qui avait été faite par Darwin. Et au début du XXe siècle, il y a un Français, Eugène Simon, qui a été le premier à décrire ces araignées sociales en Amérique du Sud, donc Anelosimus eximius, qui sont des araignées de taille assez modeste, elles doivent faire un peu moins d'un centimètre de longueur, et qui vont vivre sur des toiles qui peuvent faire donc plusieurs dizaines de mètres cubes. Et dans ces toiles vont coexister des juvéniles, des mâles et des femelles. Et on a des comportements chez cette espèce d'araignée-là qui sont assez remarquables, où elles vont coopérer pour chasser. Et une des araignées sociales peuvent par exemple chasser des proies qui sont plusieurs de centaines de fois supérieures au poids d'un seul individu. Donc en tombant dans le piège soyeux, la proie se débat, va émettre des vibrations, qui va recruter de façon indirecte toutes les araignées qui sont à proximité, qui vont fondre sur la proie, la mordre pour l'immobiliser, et ensuite, à moyen de fil, de traction, elle va remonter la proie sous les feuilles où la proie va être consommée. Et donc peuvent participer à la chasse des araignées qui ne vont pas se nourrir par la suite. Donc là, on a vraiment des formes de coopération qui sont tout à fait remarquables.
Mais ça veut dire qu'elles partagent la proie.
Elles partagent la proie, elles vont toutes pouvoir consommer la proie, même si entre les araignées, il y a une sorte de compétition pour accéder aux zones de la proie qui sont un peu plus riches en nutriments, mais toutes peuvent accéder à la nourriture. Et chez les araignées sociales, les femelles s'occupent également des jeunes dont elles ne sont pas forcément la mère. Et une des caractéristiques des araignées sociales est l'existence d'un très fort degré de consanguinité. Donc il y a une proximité génétique qui est très forte au sein des colonies d'araignées et toutes les femelles coopèrent à l'élevage de n'importe quel juvénile présent sur la toile.
Donc ça veut dire que dans ces grandes toiles, il y a plusieurs générations qui cohabitent. Il y a des jeunes, des mâles, des femelles et tous restent toute leur vie sur la toile ?
Alors oui, mais on peut avoir dans certains cas certaines femelles qui vont essaimer, qui vont se disperser, des femelles qui sont gravides, donc qui ont déjà été fécondées par les mâles, qui peuvent soit s'aimer en se déplaçant, soit de façon incidente. Si jamais il y a une bestiole, un tapir ou que sais-je, qui traverse une toile, il peut récolter sur le dos de façon incidente des araignées et les déposer un peu plus loin, en bord de route ou dans la forêt. Et donc c'est une façon pour les colonies de se reproduire.
Et du coup, ça veut dire qu'au sein de cette toile, donc, elle s'occupe des petits, elle chasse à plusieurs. Est-ce qu'il y a d'autres tâches comme ça qu'elles se répartissent ensemble ?
La construction du piège soyeux. Donc pour construire la toile, plusieurs femelles coopèrent pour construire la toile et l'entretenir, tisser des fils d'interception, donc des fils verticaux qui permettent d'intercepter les proies volantes qui vont tomber ensuite sur une nappe dont vont se saisir les araignées qui vont rester à proximité. Donc oui, coopération dans la construction du piège soyeux, dans la chasse, dans l'élevage des jeunes. Et il y a un autre comportement qui nous intéresse également au laboratoire, c'est que ces araignées vont se synchroniser pour leur déplacement. Donc quand une proie tombe dans la toile, ce qu'on voit très rapidement apparaître, c'est une des alternances de déplacement et de phase d'arrêt des araignées qui sont occupées à chasser. Donc vraiment, c'est toutes les araignées qui se déplacent, s'arrêtent, se déplacent, s'arrêtent, se déplacent, s'arrêtent, jusqu'à ce qu'elles contactent la proie. Donc ça, c'est un mécanisme de coordination qui est absolument remarquable. La raison qu'on invoque généralement pour expliquer cette synchronisation, ce besoin de synchronisation, c'est pour que les araignées engagées dans une chasse puissent distinguer les vibrations émises par la proie de vibrations parasites qui sont émises par les araignées en train de se déplacer.
Par les autres.
Et donc, ce sont des expériences qu'on a menées pour essayer d'élucider les mécanismes à l'origine de cette synchronisation.
Et là, dans ces cas de figure, ça n'arrive pas qu'une araignée mange un congénère par accident, parce que justement, il y a ces vibrations qui peuvent les troubler.
Alors, quand elles sont très excitées dans la chasse, ça peut arriver qu'elles fondent sur une autre araignée. Alors, très généralement, ou dans la vaste majorité des cas, dès qu'elles touchent l'autre araignée, elles ne mordent pas. Mmh. En raison notamment des composés cuticulaires dont on parlait tout à l'heure, qui sont impliqués dans la communication. Mais dans la panique, ça peut arriver qu'une araignée morde une autre araignée, mais c'est extrêmement rare.
Ouais. C'est pas, enfin, il n'y a pas en tout cas la volonté de se nourrir de ses congénères. Et alors, on parlait de cette consanguinité. Donc, j'imagine qu'il n'y a que quelques mâles qui se reproduisent avec la majorité des femelles.
Oui.
Est-ce que c'est un souci pour la durée de vie de la colonie ?
Oui. Alors, effectivement, il y a chez les araignées sociales, on a ce qui s'appelle un sexe ratio biaisé. Et typiquement, chez Anelosimus eximus, on a un mâle pour 10 femelles.
Ah oui, donc très peu de mâles.
Très peu de mâles. Et les mâles peuvent se reproduire avec leur mère ou avec leur sœur. Donc, on a ce taux de consanguinité qui est extrêmement élevé et qui peut être préjudiciable pour la survie des colonies, notamment en termes de résistance aux pathogènes. On sait que chez les fourmis, des colonies d'abeilles ou les colonies de fourmis, la diversité génétique au sein de la colonie permet de prémunir contre les pathogènes et de mieux résister aux pathogènes ou aux parasites. Et donc, les araignées n'ayant pas cette diversité génétique-là, elles sont très sensibles aux pathogènes. Et c'est ce qui pourrait expliquer, mais ça reste débattu et non élucidé encore actuellement, que certaines colonies qui peuvent être gigantesques, l'année suivante, disparaissent complètement.
Juste parce qu'il y a une maladie, quelque chose qui va décimer...
C'est une des hypothèses qui est proposée, parce que contrairement aux sociétés de fourmis ou d'abeilles qui vont être pérennes sur plusieurs années en un même site, les araignées sociales vont avoir une colonie gigantesque qui va durer 1, 2 ou 3 ans et ensuite disparaître brutalement sans qu'on sache réellement pourquoi. Et ça, c'est une des pistes invoquées.
Alors, on a fait plusieurs comparaisons avec les organisations sociales des insectes sociaux, comme les fourmis, les termites, les abeilles. En quoi est-ce que, du coup, l'organisation d'Anelosimus eximus se rapproche ou, au contraire, se distingue de l'eusocialité ? Parce que c'est vrai qu'il y a ce partage des tâches. Au final, en quoi est-ce que c'est si différent ?
Alors, chez les espèces eusociales dont vous parlez, donc certaines espèces d'abeilles, toutes les espèces de fourmis ou toutes les espèces de termites, la caractéristique principale est l'existence d'une division du travail reproductif. Donc, au sein de la colonie, on a une caste spécialisée dans la reproduction, donc ce qu'on appelle les reines, et une caste qui est généralement stérile, les ouvrières qui vont assister la reine et qui vont assumer les tâches d'intendance. Chez les araignées sociales, on n'a aucune division du travail reproductif. Toutes les femelles peuvent accéder à la reproduction. Donc ça, c'est une différence majeure. Chez les fourmis, au sein de la caste ouvrière, on va avoir une répartition des rôles. Donc certaines vont se spécialiser dans les soins aux œufs, d'autres dans la récolte alimentaire. Chez les araignées, elle est très ténue, cette division du travail, et est quasiment inexistante. Un autre élément important, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, les araignées sociales peuvent présenter des comportements collectifs remarquablement complexes et sophistiqués. Et à contrario, chez certaines espèces de fourmis dont les tailles de colonies sont réduites, on n'a pas de comportement collectif qui soit très prononcé. Mmh. Chaque fourmi va aller chercher, chaque ouvrière, de la nourriture individuellement, va ensuite la régurgiter aux jeunes. Mais on n'a pas de coordination dans certaines activités comme celles qu'on peut trouver chez les araignées sociales.
Ouais, elles vont ramener leur proie, mais pas se coordonner. Exactement. Pour en chasser une. Pour revenir à la Guyane, à vos expériences de terrain, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Est-ce que là, ce n'est pas en labo, j'imagine ?
Non.
Comment est-ce que vous procédez pour vos expériences ?
Alors, l'intérêt des araignées sociales en Guyane, c'est qu'elles vivent à la frontière des milieux ouverts ou fermés. Donc, typiquement, on va les trouver le long des routes, sur la canopée ou le long des fleuves. Alors, le long des routes, c'est très pratique parce qu'il suffit de circuler en voiture. Et dès lors qu'on voit une toile, on peut aller faire les manips qu'on a besoin de faire. On s'arrête et puis on fait nos manips. Alors pour les expériences dont on parlait tout à l'heure sur la caractérisation de la synchronisation, on a au laboratoire un électronicien, Patrick Arufat, qui nous avait conçu un petit dispositif pour simuler des vibrations, pour simuler une proie. Donc sur la toile, on déposait notre leurre vibrant qui permettait d'attirer les araignées. Et en parallèle, on filmait le comportement des araignées. Et une fois qu'on avait filmé le comportement de ces araignées, on analysait au laboratoire les films. Donc les expériences avaient été réalisées sur le terrain. Et l'intérêt d'avoir un leurre vibrant plutôt que de mettre une proie, c'est qu'avec ce leurre, on peut stimuler plusieurs fois la toile de façon répétitive, sans pour autant que les araignées, en ayant consommé leur proie, perdent leur motivation.
Oui, voilà, c'est ça. Si elles ont trop mangé, elles ne vont plus vouloir participer.
Voilà. De la même façon, si on les stimule trop longtemps avec un leurre, au bout d'un moment, elles n'ont plus tellement envie de jouer non
elles
plus.
Perdent
elles perdent leur motivation. Mais on peut les stimuler, on peut déclencher plusieurs chasses successivement. Et c'était très intéressant. Et surtout, c'est aussi que l'utilisation d'un leurre permet d'avoir des vibrations qui sont relativement reproductibles. Alors qu'une proie, selon la taille de la proie, on peut avoir des comportements qui sont différents de la part des araignées, recruter des araignées qui sont plus loin, etc. Alors qu'avec ce leurre-là, on minimisait les différences entre les différentes expériences.
Oui, ça, parce que selon l'intensité de la vibration, j'imagine qu'il y a plus ou moins d'araignées qui viennent à la rescousse pour attraper la proie.
Et, ouais, et c'est là que c'est un système qui est remarquablement bien fait, sans qu'il y ait un codage explicite. Je vais m'expliquer. Si on a une petite proie qui tombe, les vibrations sont relativement modestes et juste deux ou trois araignées à proximité peuvent saisir la proie et la tuer. En revanche, on a une grosse proie qui nécessite davantage d'araignées pour être mobilisée. Parce qu'elle est de grosse taille, elle va produire des vibrations beaucoup plus importantes qui vont se propager dans la toile et qui donc va recruter des araignées qui sont plus distantes. Donc on va avoir un recrutement quelque part du nombre d'araignées pour capturer la proie qui se fait de façon incidente et qui va simplement dépendre de l'intensité des vibrations émises par la proie et donc de la taille de la proie.
Ouais, c'est quand même bien fichu. Et du coup, pour ces expériences donc avec votre leurre, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Quels sont les premiers résultats que vous avez pu tirer de ces expériences ?
Alors, on est encore en train d'analyser les résultats. Manifestement, une des règles importantes pour conduire à la synchronisation, c'est que les araignées cessent de se déplacer tant que les autres araignées sont en déplacement. Donc, cette règle seule peut suffire à générer de la synchronisation. Et donc, ça signifie que quand elles sont engagées dans la chasse, elles sont vigilantes non simplement aux informations qui sont émises par la proie en vibration, mais également aux vibrations des congénères. Donc, elles doivent intégrer les informations produites par les congénères pour moduler leur propre comportement, pour augmenter leur chance de capturer la proie.
Oui, donc c'est déjà pas mal d'informations à gérer en même
temps. Exactement. Et ça se fait, c'est extrêmement rapide.
C'est assez impressionnant. Pour des petites araignées comme ça, on n'y penserait pas. Et une question un peu plus théorique, un peu plus générale. Je voulais savoir quelles étaient les premières pistes pour essayer d'expliquer cette transition de la vie solitaire à la vie sociale chez les araignées du point de vue de l'évolution, puisque c'est votre grande question de recherche, même si j'imagine qu'on ne peut pas y répondre comme ça en claquant des doigts. Quelles sont les premières pistes que vous avez ?
Alors, au niveau du répertoire comportemental, on n'a pas décelé ou n'existerait pas de différence majeure entre des espèces d'araignées solitaires et sociales. Si on prend l'exemple Agelena labyrinthica solitaire en France métropolitaine et l'Agelena consociata sociale donc, qui vit au Gabon ou au Cameroun, les comportements des femelles sont à peu près les mêmes. la structure de la toile est équivalente. Donc la recette pour rendre sociale une araignée solitaire, c'est d'empêcher la dispersion des juvéniles. Donc nous, notre objectif, c'est après avoir élucidé, on espère élucider assez rapidement les mécanismes qui conduisent à la dispersion des juvéniles, empêcher la dispersion des juvéniles pour favoriser le maintien de la tolérance d'araignées qui sont normalement solitaires. Et théoriquement, on devrait aboutir à des proto-sociétés qui devraient être similaires en organisation à celles qu'on va trouver chez les araignées sociales. Donc il n'y a pas besoin d'avoir probablement de changements majeurs, même si ça peut reposer sur des mécanismes complexes, hein, mais simplement d'empêcher la dispersion pourrait conduire à la socialité. Et un élément très important chez les araignées, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y avait 19 espèces d'araignées sociales qui avaient été décrites, et ces espèces sont apparues de façon indépendante d'un point de vue évolutif. C'est-à-dire que probablement les mécanismes qui sont à l'origine de la socialité chez ces différentes espèces sont robustes et partagés. Et un trait commun à toutes les araignées, c'est la phase grégaire que manifestent les juvéniles au cours de leur développement. Donc il suffirait d'empêcher cette dispersion pour avoir des araignées sociales.
Oui, donc ça veut dire que les espèces sociales que l'on connaît à l'heure actuelle, elles ne sont pas cousines du tout. Elles peuvent être très éloignées d'un point de vue famille.
Exactement.
Et pourtant, elles ont évolué de la même façon.
Exactement. Et on peut avoir des espèces sociales dont l'espèce la plus proche est une espèce solitaire et des espèces, comme vous le disiez, très éloignées qui sont aussi également sociales. Donc ouais. Là, on suppose que le déterminisme écologique est vraiment très important et donc reste à l'élucider.
Bon, il reste encore du travail.
Il y a encore un peu de boulot.
Alors, en plus de vos recherches, vous vulgarisez la science auprès du grand public, notamment par l'intermédiaire de l'association Les Étoiles Brillent pour tous.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces activités ?
Alors oui, donc l'association Les Étoiles Brillent pour tous avait été créée par Didier Barret, un astrophysicien, il y a une quinzaine d'années. Et l'objectif de l'association, c'est de permettre de diffuser la science et la culture scientifique au public dit empêché. Donc typiquement, les publics dit empêchés sont les personnes, les résidents de maisons de retraite, les personnes qui sont hospitalisées, les détenus en centre de détention ou en maison d'arrêt. Donc là, il y a tout un site, un ensemble de sites dans lesquels on va intervenir. Et toutes les conférences ou les animations qui sont destinées à ces publics-là sont animées par des chercheuses, des chercheurs, des techniciennes ou des techniciens des labos du CNRS ou de l'Université Paul Sabatier, qui donnent de leur temps bénévolement pour essayer de transmettre leurs connaissances et susciter l'intérêt de la part de nos publics.
Du coup, je me demandais, est-ce que c'est un public qui est différent du grand public, qui en général
oui.
se déplace volontairement
oui.
dans un lieu
oui.
Donc, communiquer auprès de ces publics empêchés, est-ce que ça a influencé, modifié votre façon de parler de science ?
Alors, une des caractéristiques des Étoiles Brillent pour tous, de l'association, c'est qu'on va intervenir dans des lieux avec des publics qui sont radicalement différents. Évidemment, on ne va pas faire le même type d'intervention devant des détenus ou devant des jeunes enfants sourds.
Bien sûr.
Donc on est obligé d'adapter notre discours. Et je pense que l'intérêt majeur de la diffusion et de la vulgarisation scientifique pour une chercheuse ou un chercheur est de ne pas avoir d'implicite. Quand on parle entre nous, dans notre communauté de chercheurs, on part du principe qu'on a à peu près le même bagage scientifique et donc on ne prend pas la peine de tout expliciter, de tout détailler. Et le fait de parler de ces recherches à un public très général, ça nous oblige à nous poser les questions, les bonnes questions, à les traduire très simplement. Et cette phase d'explicitation, je pense qu'elle est tout à fait bénéfique pour nos travaux, en nous permettant nous-mêmes de nous retourner, de prendre un peu de distance par rapport à nos recherches, de dire « Ah, c'est ça la question que j'essaie d'étudier ?» Donc ça, c'est quand même c'est un exercice qui est très intéressant.
Et donc vous êtes intervenu auprès de tous ces publics différents, que ce
oui.
soit aussi bien hôpital,
oui.
centre de détention, etc.
Oui, oui.
Et quels sont les retours ? Vous avez des retours enthousiastes ? Les gens sont souvent intéressés ?
Ah oui, oui, oui. Enfin, je me souviens, il y a quelques années, on était intervenu avec un assistant ingénieur du laboratoire, Gérard Latil, à la maison d'arrêt de Seyss. Donc, on était dans le secteur des mineurs. On avait amené des colonies de fourmis. Et donc, les jeunes détenus regardaient les fourmis, on avait amené des films. Et à la fin de notre intervention, il y a un jeune détenu qui est venu nous dire « Moi, plus tard, je vais être chercheur en fourmis.
Oh. »
Et donc, ça voulait dire que pendant tout le temps qu'il a passé avec nous, on a réussi à l'intéresser. Alors, je ne sais évidemment pas ce qu'est devenu ce jeune, mais on a réussi à l'intéresser, à faire passer un message. Et ça, c'est hyper valorisant.
Et puis, ça l'a suffisamment intéressé pour qu'il vienne vous le dire à la fin de l'intervention.
Exactement.
Donc, c'est vraiment...
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Ouais.
Mais c'est une activité qui est vraiment gratifiante et qui fait partie du devoir de chercheur et que les membres de l'association font avec plaisir et, je pense, avec talent.
Eh bien, en tout cas, on suivra ces projets en espérant bien sûr que la condition sanitaire s'améliore pour qu'ils puissent poursuivre.
Parce que là, justement, on est obligé de faire ça en visio.
Bah
et
oui.
C'est quand même extrêmement compliqué de faire ce genre d'intervention en visio, notamment dans des maisons de retraite.
Bah
donc,
oui,
vivement
oui.
qu'on puisse retourner dans nos sites d'intervention.
Puis garder l'attention. Et puis là, vous parliez de ramener des colonies de fourmis.
Exactement.
Rien ne le remplace en vrai, quoi.
Effectivement.
Et pour conclure, je voulais savoir quels étaient vos projets à venir, que ce soit en recherche ou en vulgarisation. Qu'est-ce qui vous occupe à l'heure actuelle ?
Alors, un projet à court terme en recherche que j'aimerais pouvoir mener, c'est aller en Afrique de l'Ouest, donc au Gabon, au Cameroun, pour déjà étudier sur place les colonies d'araignées sociales et ramener ces colonies sociales au laboratoire. On a maintenant des animaleries qui sont d'extrêmement bonne qualité, qui nous permettraient d'élever au laboratoire des colonies d'araignées sociales du Gabon. Donc ça, c'est vraiment un objectif pour développer nos approches comparatives que je souhaiterais pouvoir remplir. Et puis après, il faudra se laisser porter par les résultats. Et la recherche, les résultats font qu'on part dans des directions qui sont généralement inattendues. Et il faut accepter ces inattendus pour essayer d'y répondre.
Bon, en tout cas, c'est déjà, si vous arrivez à pouvoir établir ces comparaisons, c'est vrai que ce serait super, quoi.
Ça serait
avec tous les travaux que vous avez pu déjà faire en labo avec ces espèces solitaires. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir éclairé sur la socialité de nos amis arachnides. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous présenter quelques ouvrages dédiés aux serpents et aux araignées, les mal-aimés mis à l'honneur dans cette émission. Ma chronique doit beaucoup à un ouvrage intitulé « Légende de serpents » paru aux éditions de La Chouagnée-Sley en 2019 et écrit par François Sercollet, herpétologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Ce superbe ouvrage de 260 pages, très richement illustré en photos naturalistes, gravures et pièces archéologiques, vous invite à un tour du monde mythologique autour des serpents. Plusieurs créatures de folklore populaire, du basilic à la fée Mélusine, en passant par les hydres et nombreux dragons, sont également présentés. Tout cet historique est bien sûr agrémenté de nombreuses connaissances naturalistes qui contribuent à mieux connaître et comprendre ces adorables écailleux. Pour plonger dans le monde soyeux des araignées, je vous recommande deux ouvrages, tous deux écrits de la main de Christine Rollard, aranéologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Le premier est un beau livre de grand format de 191 pages. Il s'agit du livre « Arachna, les voyages d'une femme araignée », écrit par Christine Rollard et Vincent Tardieu et illustré, mis en page par Marcello Pettineo. L'ouvrage, coédité par le Muséum National d'Histoire Naturelle, est paru aux éditions Belin. Le livre vous propose d'aller sur le terrain avec les auteurs et de voir l'envers du décor. Comment se passent les relevés, les inventaires, qu'observe-t-on ? Agrémenté de superbes photos pleines pages, la vraie originalité du livre réside à mon sens dans les dessins naturalistes de Marcello Pettineo et les encarts scotchés grâce à la magie du numérique dans le livre, comme dans un carnet d'aventure d'un observateur minutieux. Le livre permet aussi de découvrir de nombreuses espèces et leurs spécificités, comme le camouflage des araignées crabes, l'araignée loup et son piège, ou encore l'argyronette capable de plonger sous l'eau avec son propre scaphandre. Un très bel ouvrage que je vous recommande vivement. Pour finir, le petit livre « 50 idées fausses sur les araignées » de 150 pages, écrit par Christine Rollard encore une fois, est sorti fin 2020 aux éditions Quai. Ce guide pratique permet de répondre clairement et simplement aux questions qui reviennent le plus souvent et permet de casser les idées reçues qui nuisent encore aujourd'hui aux arachnides. Les araignées piquent, les fils de soie sortent par les pattes ou la bouche, elles ne vivent que dans des endroits sombres et poussiéreux, toutes leurs morsures sont venimeuses, etc. Un livre accessible, agréable et très instructif. Sachez d'ailleurs que chez le même éditeur, François Sercollet a publié son pendant 50 idées fausses sur les serpents. Plus aucune raison de médire sur leur compte. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.